Salut Luc!
Salut Patrick. Mon Dieu, c'est quasiment impossible de faire une chronique sérieuse après ce qu'on vient d'entendre.
Les gens nous écrivent, avez-vous fumé? Non, c'est juste que on a eu comme 8 sujets bizarres en ligne.
Mais toi Luc, mentalement, là, est-ce que tu es prêt à vivre dans un monde sans la reine Élisabeth II?
Je pense que oui.
Non.
Non. Non.
Eh bien, je suis abasourdi, moi, par les Britanniques. En fait, ils sont pas si nombreux que ça. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est pas 100% des Britanniques là, qui sont en amour avec la monarchie. Même, ça dépasse le 50%, mais je me rappelle plus, mais c'est pas énorme. Là. C'est moins important que ce qu'on pense, là, où ils sont tous en train de suivre dans le détail. Ah, oh, ben Jean-Philippe l'aurait su, on aurait pu lui poser la question. Mm-hmm. Mais c'est le fait que ça soit si typique. Le fait que ça soit touristique, le fait que ça soit, tu sais, c'est pas plus, c'est de l'ethnographie, tu sais, un peuple qui s'attache comme ça à une reine qui a aucun pouvoir, puis qui s'attache à l'image de cette reine-là, la famille, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont porté, où sont allés, c'est hallucinant.
Bon, Luc, revenons à des considérations bassement terrestres. Là, tu veux nous parler de la difficulté de trouver un appart, un condo ou une maison à Montréal, ça coûte cher.
Ben, c'est plus qu'une difficulté, puis ça va devenir une énorme difficulté. Évidemment, c'est pas senti par toute la population, mais c'est senti par les gens, de plus en plus senti par toute la population, mais à la base, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui se taisent. Une fois de temps en temps, tu vois dans le journal, comme là, ce pauvre homme qui se fait expulser là, de son 4 et demi avec sa famille, puis qui n'a pas trouvé en 6 mois de recherche.
À Longueuil, oui.
À Longueuil, il cherchait quand même, prêt à payer 1 300 $ par mois, mais personne ne veut de lui. Alors là, il parle, il a pris la parole, il est à 2 semaines de l'expulsion finale. Mais tu as beaucoup de gens, notamment chez les personnes âgées, chez les personnes qui habitent seules, les femmes qui habitent seules, âgées, fait que là, les trois ensemble, de gens qui sont dans des conditions très difficiles, paient plus de 50% de leur budget en loyer.
Et Luc, j'attire ton attention sur la une du journal Le Devoir aujourd'hui. L'itinérance à Saint-Jérôme, à Gatineau, à Laval, il y a un lien assez direct aussi avec le fait qu'il y a de moins en moins de logements à prix modique. T'as des gens qui n'ont pas été poussés à la rue par des problèmes de santé mentale ou par des problèmes de dépendance. Ils n'ont juste pas d'argent pour se payer un loyer.
Exactement. Quand on parle, il y a même une catégorie de personnes, là, c'est 80% de leur budget. Il y en a qui vont jusqu'à 80% de leur budget pour se payer un loyer. Et même les gens qui sont en itinérance, tu sais, qui font ça, ils essayent de se payer un loyer une fois par mois, une semaine par mois ou quelques jours par mois. Donc, et parce qu'ils arrivent tout simplement pas. Et c'est pas tout le monde qui est en itinérance qui veut être sur le trottoir là, puis, ou qui n'a pas d'autre choix qu'à être sur le trottoir parce qu'ils ont perdu la carte à cause de la dope. Là. Il y a aussi des gens pauvres. Il y a aussi tous ces exemples-là. On l'a vu dans les grandes villes, San Francisco, Toronto, c'est moins encore arrivé à Montréal, de gens qui ont un travail mais qui vivent dans leur voiture. Ou des gens qui habitent, qui travaillent de façon temporaire en été, puis qui vivent dans leur voiture le reste de l'année parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Et ça, c'est pas du tout sur le point de s'améliorer. On pensait, c'est peut-être lié à la COVID, c'est un mauvais moment à passer, ça va s'améliorer. Encore cette année, ça a augmenté de 20% le prix des maisons. Mais mauvaise nouvelle, après lecture de toute la littérature, une bonne partie de la littérature sur la question, ça va continuer d'empirer et pendant longtemps, au moins jusqu'en 2040, tout simplement parce que, bon, d'abord, en ce moment, les gens, il y a plein de critères ponctuels. Là. Les gens ont plus d'argent dans les poches, les taux d'intérêt sont bas, il y a plus d'emplois disponibles, les salaires sont en augmentation, plein d'éléments qui font que les gens ont plus d'argent dans leurs poches, qui sont plus nombreux à pouvoir payer cher. Mais il y a aussi une immigration qui ne dérougit pas, immigration permanente et temporaire, qui fait que le Canada est un exemple, est un pays à part. En termes d'immigration, en termes de croissance de sa population, et jamais le stock de logements va pouvoir rattraper la croissance de la population par l'immigration.
Non, mais on peut quand même essayer.
Oui, bien, il y a un gars qui a fait des calculs, il y en a plusieurs qui ont fait des calculs. Il y a un gars qui s'appelle Perrault à la Banque de la Nouvelle-Écosse, puis il dit que pour que le rythme de construction de maisons soit équivalent au rythme de proportionné au rythme d'augmentation de l'immigration, il faudrait tout de suite construire 1,8 million de maisons. Et ça, ça nous ramènerait...
À la grandeur du Canada.
À la grandeur du Canada. Ouais, okay. Ça nous ramènerait à la moyenne du G7 en termes de nombre de maisons disponibles par rapport à la population. On est sur une trajectoire complètement différente, par exemple, des États-Unis juste à côté de nous. En ce moment, là, incroyable. Si tu regardes les 5 villes les plus chères du continent, toutes, on aurait pensé, tu sais, New York,
oui.
San Francisco, Los Angeles, ben, on va faire la liste. Première, Vancouver. Deuxième, Toronto. Troisième, Hamilton.
Hamilton?
Hamilton. Pourquoi? Parce que les gens fuient Toronto.
Mais c'est la banlieue de Toronto. Les gens vont habiter à Hamilton puis vont
ensuite,
travailler à Toronto.
San Jose, Los Angeles. Et la sixième, Ottawa. Donc, Ottawa devant New York.
Hein?
Ottawa devant New York.
OK, mais attends.
En termes de revenus disponibles, par rapport... Ben, c'est, évidemment, c'est un ratio entre le revenu et le coût des maisons. Donc,
mais on parle de New York-Manhattan ou l'État de New York?
La moyenne de la ville de New York. Donc, y compris les grands quartiers là, de Staten Island, Brooklyn, etc. Mmh. C'est pas juste Manhattan. Là. Mais quand même, ça saute au visage.
OK, mais la chose urgente à faire pour les pouvoirs publics, c'est quoi?
Ah! Ça, c'est la bonne question. Mais d'abord, il faut rétablir le ratio entre la population puis le nombre de maisons disponibles. Donc, il faut construire. Le gouvernement Trudeau n'est pas tout à fait mauvais là-dessus. Ils ont proposé deux choses. Donc, ils ont proposé des prêts à faible taux d'intérêt à des gros constructeurs pour qu'ils construisent des milliers de logements. Évidemment, c'est critiquable parce que dans d'autres pays, ces prêts sans intérêt ont été réservés pour des gens qui construisaient des logements abordables, très abordables. Tandis que là, l'abordabilité est définie différemment ici au Canada, puis ça donne pas toujours des logements abordables. Il y avait un autre article cette semaine qui parlait d'une abordabilité à 2 250 $ pour une famille de Montréal. C'est pas du logement abordable comme on a à Vienne, par exemple, où les gens... consacrent simplement un quart de leur revenu pour se payer un logement, un beau logement en ville. Alors, c'est pas la même abordabilité, mais du moins, ça permet de rétablir un peu en construisant, resserrement des règles hypothécaires, mais aussi une taxe sur les locaux vacants et les appartements vacants. Il y en a une à Toronto, il y en a une à Vancouver, il va en avoir une à Ottawa. Trudeau en a annoncé une dans la campagne électorale. Pourquoi? Parce que les logements qu'on construit ne sont pas les logements dont on a besoin. Les gens construisent des logements en ville dans des tours 600 pieds, 700 pieds carrés qui laissent vides en attendant de les louer. Ça devient un pied-à-terre ou c'est loué en location court terme. Mais c'est beaucoup de construction pour peu de logements utilisés en bout de ligne. Alors ça aussi, c'est une solution. Berlin n'accepte plus la vente de maisons par des compagnies. Tu ne peux pas acheter une maison si tu as une compagnie à numéro. Il faut que tu sois un particulier pour acheter une maison. Puis le Danemark interdit la financiarisation de l'immobilier, c'est-à-dire les gros groupes, comme mettons la Caisse de dépôt, qui vont et qui achètent des milliers de logements d'un coup. Parce que comme les logements augmentent beaucoup, ben, le prix des logements, ça devient très attirant pour les gros financiers. Puis là, c'est des gros groupes mondiaux qui achètent des milliers de logements du coup. Fait que beaucoup de choses à faire sur la table. Puis on se demande, est-ce que Coderre et Plante sont en ligne pour faire les bonnes affaires? Et moi, la réponse, c'est ils ont tous les deux des bouts de solution, mais ils vont pas assez loin. C'est des bouts de solution à la mesure. Il faut donner à Plante le fait que c'est la première à avoir investi beaucoup dans le logement social, mais c'est pas avec quelques centaines de logements sociaux par année qu'on va y arriver. Là. On a besoin de milliers de logements. De son côté, Coderre propose des milliers de logements, mais ne s'intéresse pas au prix. Alors, ils font un mix de solutions.
Merci, Luc. Hey, bonne fin de semaine. On va se retrouver lundi.
Merci, à lundi.
MC, on va vider la question de Couillon tout de suite.
Oui.
Non, ça ne se prononce pas, cette petite municipalité en Outaouais, comme vous le pensez. Ça se prononce pas Couillon. C'est Couillon. Fait que je comprends les blagues que tout le monde fait, mais vous le prononcez mal.
Mais là, les gens de l'Outaouais nous écrivent pour nous dire qu'eux-mêmes ne connaissaient pas cette petite municipalité. Fait que c'est pas gros.
Non, c'est vraiment tout petit.
Parce qu'on trouve même pas le gentilé des gens.
C'est dans le Fort Coulonge métropolitain, je te dirais.
Et boy the boy.
17h25.
Mais ça...